Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle, une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com.
Troisième volet de notre réflexion au long cours sur les sujets fondamentaux de cette campagne électorale. Sujet réflexion auquel les chrétiens peuvent apporter leur pierre, leur contribution, tant il est vrai que le christianisme dispose d'une sagesse vieille de 2000 ans. L'Église est experte en humanité, affirmait déjà Paul VI, et on pourrait étendre cette affirmation à l'ensemble des confessions chrétiennes. Aujourd'hui, c'est la place de la France dans le monde qui nous intéresse, car même si les questions internationales ne figurent pas pour l'instant au cœur de la campagne, la mondialisation aujourd'hui est devenue un fait. Indéniable, et l'on attend du futur chef de l'État une vision qu'il ou elle se prononce sur les sujets cruciaux pour la paix dans le monde, les relations avec les États-Unis, le terrorisme ou encore la prolifération nucléaire, pour n'en citer que quelques-uns. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes donc avec Louis Gauthier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué national aux questions stratégiques du Parti Socialiste, ancien conseiller pour la défense de Lionel Jospin, également auteur de Face à la guerre, édité à la Table Ronde. Et pour en débattre avec vous, nous serons également en ligne tout à l'heure avec André Brigand, également spécialiste des questions de défense, mais à l'association chrétienne Justice et Paix. Avec moi pour mener ce débat, Frédéric Cazatzu, journaliste de l'hebdomadaire Réforme. Bonsoir.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous.
Et puis également Jean-François Colosimo, essayiste et théologien qui représente le site orthodoxie.com. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on commence par l'actualité, ce n'est pas l'essentiel, mais c'est aussi ça la politique. On commence avec vous Jean-François, par quelques questions brèves sur l'actualité de la campagne.
Oui, première question Louis Gauthier, c'est de savoir enfin que signifie d'un coup ce rassemblement des éléphants autour de la candidate. Ils n'étaient pas là, ils sont là désormais. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Est-ce que le parti se rassemble parce qu'il se sent menacé? Ou est-ce que, en fait, Ségolène Royal a réussi enfin à convaincre ses adversaires d'hier dans la compétition au sacre?
Il y a plusieurs maisons dans la maison de Ségolène, mais finalement il n'y a qu'une seule maison et tout le monde, évidemment, se réjouit de ce qui était naturel. C'est-à-dire que l'ensemble des dirigeants historiques ou actuels du Parti Socialiste se rassemblent pour soutenir cette campagne.
Mais est-ce que les divergences entre, si on pour ne prendre qu'un exemple, entre un Laurent Fabius et une Ségolène Royal ont été aplanies?
Je crois que, d'une part, la candidate porte le projet socialiste, et ce projet était, d'une certaine manière, une synthèse après le congrès du Mans des opinions qui s'étaient exprimées dans le parti. Et deuxièmement, à Villepinte, on l'a vu, le rassemblement était déjà fait sur le pacte présidentiel qu'elle propose.
Frédéric Cazatzu.
Oui, de nombreux électeurs socialistes sont tentés de voter pour François Bayrou. Le ressentez-vous sur le
terrain?
Ça,
c'est vous qui le dites. Non, je ne le ressens pas, non. Je ressens chez M. Bayrou l'envie de capter ici ou là des électeurs. D'ailleurs, ce qui est difficile pour lui, c'est qu'il cherche à en capter aussi bien à droite qu'à gauche, et que du coup, il est dans une forme de grand écart avec lui-même et avec sa base. Il n'empêche qu'on peut avoir sur le terrain des idées sujets de rapprochement. Par exemple, sur l'Europe, par exemple, je l'entendais même sur le porte-avions, le second porte-avions, avoir une position qui était exactement conforme à celle de Ségolène Royal.
Alors justement, les questions internationales, Jean-François Colosimo.
Oui, justement, cette question du porte-avions nous fait voir que cette semaine, Tony Blair a annoncé le retrait des troupes britanniques en Irak. Ce retrait était prévisible. Il n'empêche, première question un peu directe, si je puis dire, Ségolène Royal, président de la République, dont chef de guerre, est-ce que nos troupes auraient été en Irak ou n'auraient pas été en Irak? Évidemment, c'est un exercice rétrospectif, mais...
Oui, c'est un exercice rétrospectif qui a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on connaît la réponse. Évidemment, elle n'aurait pas engagé de force en Irak. Et je dirais l'ensemble des arguments qui ont été donnés, d'ailleurs, au moment où les Américains mettaient sous pression la communauté internationale pour tenter de légitimer leur action, en 2003, la réaction des socialistes était sur ce point unanime, et celle de Ségolène Royal n'était pas différente. Il fallait dire non à la guerre en Irak.
Deuxième question très directe, sur les 100 propositions de Ségolène Royal, il n'y en a que 8 qui concernent l'international. On va revenir sur le contenu bien sûr, mais auparavant 8 sur 100, ce n'est quand même pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire que finalement ce sont des questions mineures par rapport à d'autres comme le pouvoir d'achat par exemple ou d'autres ?
Non, je ne crois pas du tout qu'il faille faire cette interprétation. Mais il est évident que dans un pacte qui s'adresse essentiellement aux électeurs, qui s'adresse aux Français, il est naturel. Et d'ailleurs, vous reprendriez tous les programmes de tous les candidats, vous retrouveriez probablement la même proportion. Dans la lettre aux Français de François Mitterrand, la même proportion dans le nombre des signes et des pages. Et on sait qu'il a été un grand président et un grand président à l'international. Non, je crois que, en plus de ça, dans le domaine international, ce n'est pas des propositions, ce sont plus des axes d'action qu'elle a déterminés. Dans ces axes d'action, il y a la volonté de redonner au système international du dynamisme, la volonté de relancer l'Europe, la reprise du désarmement, le co-développement avec l'Afrique. Donc ce sont plutôt des grands thèmes, des grandes priorités d'action future. Ce ne sont pas des propositions concrètes comme dans d'autres domaines concernant ou l'éducation ou le secteur social ou de la santé.
Mais vous regrettez qu'il n'y ait pas de débat, parce qu'on va passer en revue avec Frédéric Casadesus tout à l'heure les différentes propositions des candidats. Vous regrettez que finalement il y ait une absence de débat sur ces questions-là aujourd'hui ?
Je pense que ce débat viendra, il se nourra nécessairement, notamment pour le second tour, parce que l'élection présidentielle est quand même l'occasion de faire un choix qui se porte aussi sur un candidat qui va assumer les fonctions de représentation de notre pays et les fonctions de chef des armées. Je constate effectivement qu'aujourd'hui, dans cette première phase de la campagne, sauf peut-être sur le thème européen, peu de choses ont été dites. Encore que je vous renvoyais à l'instant même au discours de Villepinte où Ségolène Royal a, pour le coup, passé pratiquement 30 minutes sur les questions internationales, si on inclut la problématique européenne.
Sur 2 heures, en effet.
Oui, mais c'est normal, et je dirais c'est beaucoup.
Hein,
elle a consacré un très long développement sur l'Europe, un très long développement sur l'Afrique, un développement aussi sur la nécessité d'un ordre international plus juste. Bon, je pense que, de toutes les façons, ces questions vont venir et qu'elles viendront inéluctablement dans la phase du deuxième tour. Mais je pense que ces questions vont être évoquées dans cette phase active de la campagne, même avant le premier tour.
Alors d'ailleurs, on va les évoquer ici. Frédéric, en quelques mots, les principales propositions qui sont émergées sur ces questions.
Voilà, alors bon, on connaît l'opposition traditionnelle entre la gauche et la droite. Pour le coup, il y a un vrai clivage. La gauche se présentant longtemps comme le camp de la paix, notamment le Parti communiste. On peut dire que la situation a évolué. Bien sûr, l'extrême gauche et le Parti communiste continuent à affirmer la nécessité de lutter contre l'armement. C'est particulièrement spectaculaire chez Olivier Besancenot, qui affirme que, au fond, les armes de destruction massive ne sont pas fabriquées et détenues, plus exactement, par les pays en voie de développement, mais bien par les pays riches, pays occidentaux, au premier rang desquels il cite la France, bien entendu. Autrement dit, les pays occidentaux sont principaux responsables de la course aux armements. Le Parti communiste ne dit pas autre chose, et il ajoute, enfin, Marie-Georges Buffet insiste notamment quand même sur le dialogue avec l'Afrique. Il y a là, sous-jacente, on le devine, une critique de ce que l'on appelle traditionnellement la France-Afrique, même si là nous sommes à la lisière.
Le néocolonialisme.
Voilà, nous sommes là évidemment à la lisière de la politique étrangère et de la défense, mais cette politique militaire vue par Marie-Georges Buffet prend une connotation tiers-mondiste, somme toute traditionnelle. Alors, pour ce qui concerne François Bayrou, on peut insister sur 2 ou 3 éléments. Tout d'abord, la volonté d'intégrer, d'associer la population française dans une démarche que l'on dirait tout simplement civique. Il faut que tous les citoyens prennent en charge la défense du pays, notamment évidemment face aux nouvelles menaces et je pense au terrorisme. Deuxième axe de la campagne, une intégration de la défense de la France, une intégration européenne. somme toute là,
là quasiment tout le monde est d'accord, peut-être à l'extrême droite, quelques réserves.
Sans doute, mais je dirais quand même que François Bayrou insiste notamment sur ce point, et ça n'est pas extraordinaire dans la mesure où la famille démocrate chrétienne était à la pointe de la fameuse communauté européenne de défense durant les années 50. Pour ce qui concerne Nicolas Sarkozy, les choses semblent avoir évolué. On sait qu'il était assez favorable à une réduction des dépenses militaires, sans trop le dire, puisqu'évidemment, là, il s'est allé à contre-courant de sa famille politique. Il semble se résigner ou se résoudre ou approuver, selon le cas. En tout cas, la construction d'un nouveau porte-avions, ça, c'est un fait, semble-t-il, acquis. Mais son programme dans le domaine de la défense contient tant de nuances qu'on a quand même le sentiment que, sans le dire, Nicolas Sarkozy mettra en œuvre quelques réductions budgétaires. Last but not the least, il insiste lourdement sur le rôle des citoyens dans la politique de défense. Alors vous allez me dire, mais au fond, comme François Bayrou, pas tout à fait, car la couleur qu'il donne à ses propositions laisse penser que là, il s'agit d'une implication plus musclée, on dira. C'est un peu le qualificatif que je vous propose.
Merci Frédéric. Louis Gauthier, alors je rappelle donc que vous êtes conseiller sur les questions de stratégie au Parti Socialiste. On a l'impression finalement qu'aujourd'hui, entre la droite et la gauche, sur ces questions-là, il y a un consensus, on va dire, sur les grandes lignes. Vous disiez tout à l'heure, on s'interroge sur les grandes lignes. Et ce sont les extrêmes, extrême gauche, extrême droite, qui remettent en question véritablement, soit effectivement à travers un internationalisme à l'extrême gauche, soit au contraire un nationalisme à l'extrême droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ?
Oui et non. Oui, parce que je crois d'abord que toute la Ve République a été marquée par la cristallisation d'un consensus sur la défense. Ça a été même la recherche de la classe politique. Politique, progressivement, de s'entendre sur ce qu'étaient, je dirais, les grands piliers de notre défense. Et à l'époque, c'était l'indépendance nationale, la dissuasion, la conscription. Alors, depuis la chute du mur de Berlin, les choses ont beaucoup évolué, puisque je dirais, ces trois piliers se sont effondrés pratiquement sur eux-mêmes. La professionnalisation des armées, la suspension du service militaire, la grande modification, je pense qu'on y viendra, de la dissuasion nucléaire qui n'a évidemment pas le rôle qu'elle avait du temps de la guerre froide. Et enfin, l'interdépendance, notamment au niveau européen, mais aussi au niveau des coalitions, par rapport qui prime sur la stricte notion d'indépendance sur ces sujets. Et alors, là encore, les réformes ont été faites et un consensus existe, mais c'est un consensus, j'allais dire, un peu par défaut. Il y a une absence de dynamique. Je pense que la campagne électorale va justement faire apparaître, non pas des clivages pour les clivages. C'est vrai qu'à un certain moment, Nicolas Sarkozy évoquait des ruptures. Je ne sais pas où il les plaçait. Parce que je crois qu'il n'y a pas de raison sur ce secteur, je dirais, de brutaliser l'accord, l'assentiment, le lien entre l'armée et sa nation. Mais il y a besoin de reposer un certain nombre de questions.
Mais est-ce que ça veut dire aussi...
Excusez-moi, ces questions, elles sont très fondamentales. Parce qu'il y a une première question qui est celle de la souveraineté. Est-ce que, si l'on veut aller plus loin, ce que je crois, dans l'intégration des forces européennes, comment procédera-t-on à des délégations de pouvoir, de compétences, d'instruction, d'ordre ? C'est une vraie question, elle est absolument fondamentale. Relié à ça, évidemment, les problématiques d'alliance, l'OTAN, l'Europe, le choix. Sur les opérations extérieures, là encore, je pense qu'il y aura des clarifications nécessaires parce que, je dirais, on est tous partis convaincus de la nécessité d'un certain nombre de conflits pour le droit international, pour la paix, en termes d'ingérence humanitaire. Et aujourd'hui, on voit que nos soldats, les soldats occidentaux, sont englués, enlisés dans des conflits dont on ne parvient pas à trouver les finalités politiques. Et donc, il y aura bien, sur ces finalités politiques, et donc sur la justification des moyens militaires que nous engageons dans ces théâtres, de nouveau une discussion. Et là, il y a évidemment tout le lieu d'une discussion, et peut-être de contrastes forts entre les positions.
Jean-François Colossimo.
Oui, vous m'excuserez d'y revenir de manière un peu plus brutale. Est-ce que nous avons trop de soldats à l'extérieur et de manière trop inutile, employés à des missions de police plutôt qu'à des missions réellement militaires ? La question est très directe.
Oui, mais je...
Réponse
trop,
directe.
Trop, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut constater, c'est évidemment l'empilage des missions. On est parti au départ pour des opérations qui étaient des opérations, j'allais dire presque coup de poing. On intervenait dans une crise et puis ensuite on partait. Et puis on voit qu'au fur et à mesure, non seulement l'intensité des crises dans lesquelles on est intervenu, l'augmentation des moyens militaires qu'on a mis en œuvre, qu'il y a donc eu cette augmentation à la fois du volume et de l'intensité des conflits, et puis un problème particulier à trouver les issues politiques à ces crises. Songez que par exemple dans les Balkans, nous sommes engagés maintenant depuis pratiquement 15 ans, un peu moins de 15 ans, enfin plus d'une douzaine d'années. Donc ce sont des conflits extrêmement longs, ça change complètement les perspectives sur ces conflits.
On va y revenir, Louis Gauthier, dans un instant. On écoute un morceau de musique et puis on se retrouve tout de suite après.
Radio Notre-Dame.
Fichez-nous la paix, Hugo Frey. Nous sommes donc dans la deuxième partie de cette émission Élections providentielles consacrée à la France, la place de la France dans le monde, les questions de défense, de terrorisme aussi, nous allons y venir. Et nous sommes en compagnie de Louis Gauthier, qui est délégué national aux questions stratégiques du Parti Socialiste, avec également en compagnie de Frédéric Cazatsu, de l'hebdomadaire Réforme, et de Jean-François Colosimo pour le site orthodoxie.com. Et nous rejoint par téléphone à l'instant André Brigaud. Bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur.
Vous êtes membre de Justice et Paix, une instance de réflexion au sein de l'épiscopat français. Vous êtes spécialisé également dans les questions de justice internationale et de paix. Et puis vous êtes membre de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, première question que vous avez à poser à notre invité, à Louis Gauthier. Question qui concerne nos soldats. On en parlait juste avant la pause. Nos soldats qui sont présents en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, au Liban notamment. Une question donc sur la projection des forces et sa légitimité.
Oui, tout à fait. Permets-moi de presque d'enchaîner sur la chanson d'Hugo Frey, parce que je crois qu'il y a dans la réflexion sur la défense quelque chose qui est présent dans le livre, en tout cas, de Louis Gauthier. C'est cette idée
Face à la guerre.
Face à la guerre.
À la table ronde.
Il dit finalement, faut pas avoir peur non plus de la force. Et je crois qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, on peut d'abord dire qu'il y a besoin d'un certain nombre de moyens de sécurité. Et alors ma question, c'est ce qu'affirme, je crois, Louis Gauthier dans ce livre, et ma question porte finalement sur les moyens de sécurité que l'on est prêt à consacrer effectivement à la fois à l'intérieur de l'Europe et à l'extérieur. Est-ce que actuellement, on le disait, est-ce qu'on n'est pas dans une logique passer d'une logique humanitaire à une logique presque expéditionnaire? Et est-ce que dans le débat présidentiel, c'est pas une question qui va devenir importante? C'est-à-dire, que faisons-nous là-bas? Est-ce que nos missions sont claires? Et est-ce que les missions qui sont données à l'extérieur correspondent à, je dirais, des demandes de sécurité interne? Ça serait au fond ma première question.
Alors, Louis Gauthier, réponse sur cette question-là.
Je vais revenir d'abord sur un point évoqué par André Brigaud. Faut-il ou non avoir peur de la force? Je veux dire que il faut ne pas avoir peur de penser la force. Il ne faut pas avoir d'inhibition face à la question de la force, parce qu'elle revient forcément sur nous.
Il y a une certaine naïveté parfois,
voilà,
sur
il ne faut pas avoir cette naïveté. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas avoir une inhibition du rapport de force, parce que malheureusement, même si on voudrait que le monde soit construit autrement, davantage fondé sur le droit, il est encore aujourd'hui articulé autour de rapports de force, autour de la notion de puissance. Et je dirais pour les principaux grands pays, pour les principaux grands ensembles, vous évoquez l'un et l'autre la course aux armements au début d'émission, eh bien ce développement de la puissance est aujourd'hui de nouveau à l'œuvre. Et il faut évidemment le craindre et ne pas s'en réjouir. Alors, sur ce qui fait plus précisément l'objet de la question d'André Brigaud, c'est-à-dire le risque d'action expéditionnaire, je crois qu'effectivement, il faut être très vigilant sur ce point. Je crois qu'une des erreurs, sans doute, que l'on a commises, on en a commises un certain nombre. La première, c'est sans doute au départ de ne pas avoir été dans les premières interventions, rappelez-vous en Bosnie, ou certaines interventions en Afrique, où au fond, la communauté internationale s'est engagée sans se donner les moyens d'être ce gendarme de la paix. Et on a vu finalement des opérations qui ont duré ou qui ont conduit à des massacres pires encore, parce que la communauté internationale était peu ou mal intervenue et avait fait dégénérer les situations. La deuxième, là encore, naïveté qui est liée au fait de ne pas penser correctement la force, c'est que vous n'êtes jamais un acteur neutre quand vous faites usage de la force. Vous faites nécessairement évoluer sur le terrain le rapport des forces et la situation. Et donc, il y a une difficulté à être à la fois un acteur qui fait usage de la force, même si c'est pour contenir ou empêcher un affrontement, et d'être un arbitre de la solution politique. C'est d'autant plus difficile quand on n'a pas pensé à l'avance quelles étaient les issues politiques que l'on voulait vraiment. À cet égard, le cas de la Côte d'Ivoire est patent. La France, je dirais, est intervenue dans des conditions qui étaient, je dirais, pas clairement définies au plan politique, qui en tout cas faisaient l'objet de critiques, y compris des deux côtés des parties ivoiriennes. Et aujourd'hui, la France, qui est intervenue dans ce contexte, est l'otage d'une situation, et paradoxalement, alors qu'elle se voulait l'arbitre, celui qui apporterait la réconciliation, on voit aujourd'hui que la présence militaire dans ce pays est peut-être une des causes qui empêche une évolution et une sortie de crise politique. Frédéric. Et en même temps, on sait bien qu'il serait irresponsable de se dégager en disant après tout, on n'a pas fait notre mission, alors débrouillez-vous,
etc. Bien sûr, il faut tenir compte de la situation.
Donc il y a à la fois la responsabilité qu'on doit avoir avant, la réflexion sur ce qu'on va y faire, pendant et aussi nécessairement après dans la couche de la solution politique.
Frédéric Cazassu, hebdomadaire Réforme.
Oui, vous citez à l'instant le cas de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce n'est pas emblématique de notre rôle? La France ne le dit pas, mais elle agit en sous-traitance, notamment pour les États-Unis.
Non, je crois pas. Je crois que les États-Unis, dans cette région du monde, je dirais, ont une politique qui oscille davantage. C'est pas un point stratégique fort. Ils ont des intérêts, et ils les montrent d'ailleurs, dans la lutte contre le terrorisme, dans certains aspects qui ont trait aux enjeux énergétiques, mais je dirais que c'est pas là où se trouve leur priorité stratégique. Et la relation de la France à l'Afrique, elle est ancienne. Sur le plan militaire, elle est aussi liée à des accords de coopération et de défense, à tout un arrière-plan historique.
Bref, question
bien.
Jean-François Colosimo, oui, puis on retrouve André Brigaud.
Oui, avant de retrouver André Brigaud, justement, parce qu'on évoque l'Afrique, on ne peut pas ne pas l'évoquer. Est-ce qu'on ne croyait pas qu'en dehors même de Ségolène Royal, on n'est pas à la veille d'une vaste mutation quand même de la place de la France en Afrique?
Je crois que les États-Unis sont présents. Bien sûr.
On parle de moralisation, mais en même temps, est-ce qu'on ne risque pas aussi simplement d'être chassé d'Afrique au front?
Non, mais je pense en revanche qu'il y a besoin d'une clarification. Il y a d'abord besoin d'une clarification de ce que nous souhaitons faire en Afrique, notamment, je dirais, puisque c'est essentiellement de ça dont il s'agit. Alors, il y a évidemment des aspects économiques, culturels et autres qui sont plus justifiés, mais ce que nous souhaitons faire, notamment par notre présence militaire. Je crois qu'il faudra reconsidérer cette présence militaire, il faudra regarder, notamment au cas par cas, là où nous avons des forces, réexaminer aussi les accords de défense et de coopération. Mais là encore, je crois qu'on est forcément dans une dialectique qui associe l'autre. Si on est dans l'oukase, on fait un autre contresens. Donc la discussion, elle doit se nouer avec les parties africaines, avec l'Union africaine et sans doute aussi avec les Européens qui sont évidemment nécessairement porteurs de la grande politique de coopération entre l'Europe et l'Afrique qui est évidemment souhaitable.
Alors on retrouve André Brigaud donc, qui est en ligne avec nous. Vous êtes membre de Justice et Paix, donc une association chrétienne qui dépend de l'épiscopat français. Deuxième question qui porte sur l'articulation entre la projection des forces et la protection intérieure de notre pays.
Oui, au fond, c'est la question de savoir, faut-il pondérer peut-être un peu différemment la projection de force et le souci de la sécurité des Européens, pas seulement de la France, tel qu'on croit l'apercevoir quand même à partir des opinions publiques. Il y a quand même en Europe une sorte de défiance face à un certain nombre de projections de force, peut-être pas des États-Unis, mais en tout cas de l'administration Bush. Et là, il me semble qu'il y a peut-être une différence qu'on peut faire entre les différents candidats. Il me semble qu'il y a des candidats qui se prononcent plus clairement pour un soutien à la politique du président Bush, alors que d'autres, même par exemple dans l'affaire iranienne, semblent rechercher des formes peut-être nouvelles et qui correspondent mieux, semble-t-il, à ce qu'attendent les opinions, du moins si l'on en croit les résultats électoraux de ceux qui sont partis, je dirais, très très loin dans la logique expéditionnaire. Autrement dit, là encore, en matière de sécurité, peut-on dire qu'il y a véritablement une unité dans les partis politiques, ou est-ce qu'il n'y a pas une partie des candidats qui insistent plus sur les aspects internes, les aspects européens?
Louis Gauthier, est-ce qu'il faut se préoccuper d'abord de notre sécurité intérieure ou au contraire aller projeter des forces en Afghanistan, au Liban par exemple, pour ne prendre que deux exemples?
La mondialisation pousse nécessairement à deux choses. D'une part, à penser davantage notre engagement pour favoriser une mondialisation pacifique et donc éviter ou essayer de prévenir des troubles. Et puis deuxièmement, la mondialisation de certaines menaces. Et on a bien vu comment, justement, le terrorisme utilisait les aspects d'échanges internationaux pour parvenir à ses fins et pour projeter plus loin la menace. Donc, ça renvoie à un constat que fait André Brigaud à l'instant, c'est que c'est vrai qu'on doit avoir une juste pondération entre une mission de projection extérieure qui était prioritaire, essentielle, dominante dans les 10 premières années qui ont suivi la chute du mur, alors qu'on pensait, nous, Européens, qu'on était historiquement et définitivement à l'abri de toute menace, qu'on était dans une sorte d'abri creux désormais de la mondialisation et de l'histoire. Et puis, cette logique qui fait qu'on est quelque part quand même engagé dans ce monde, dans cette mondialisation, et qu'on ne peut pas s'en dégager de manière irresponsable. Je voudrais dire aussi qu'il faut éviter certaines formes de confusion ou de miroitement entre les missions, puisque là, on est essentiellement sur un terrain militaire. La mission de sécurité intérieure, elle est essentiellement une mission de police, de gendarmerie. Il faudrait éviter à rebours, par ce phénomène de peur, d'aller militariser des éléments qui n'ont pas lieu d'être militarisés.
Mais est-ce que la principale menace aujourd'hui, elle n'est pas terroriste ?
Oui, mais la menace terroriste ou la lutte contre le terrorisme eut avant d'aller à l'usage de moyens militaires, comme par exemple on l'a fait ou on le fait en Afghanistan, dans la chasse aux talibans, dans la lutte contre les talibans, elle est d'abord une action par des moyens d'éradication de moyens financiers, de police, de services de renseignement. Donc il faut éviter ces confusions que je vois aujourd'hui qui sont dangereuses. Dernier point, c'est quand même une grande question européenne. Les Européens ont fait l'Europe de la défense pour faire de la projection. Et alors même qu'il y a eu les attentats de Londres, de Madrid, vous avez vu encore il y a quelques jours la démission du coordonnateur chargé de la lutte contre le terrorisme, je trouve que non seulement la réflexion est limitée, voire indigente, mais la coopération entre les Européens pour prendre en charge la problématique globale de leur sécurité intérieure, alors même que l'Europe est en expansion, que ses frontières s'élargissent, là oui, il y a vraiment un déficit à la fois de réflexion et un déficit politique.
Jean-François Colosimo.
Oui, très directement, là encore, Louis Gauthier, le fait que justement Paris n'ait pas souffert, contrairement à Londres ou à Madrid, d'attentats terroristes, alors que Londres et Madrid étaient engagés auprès des Américains en Irak, est-ce que c'est la récompense d'une intelligence supérieure, je dirais, des enjeux actuels et de toute leur dimension culturelle, ou est-ce que c'est au fond la prime à une attitude un peu munichoise ?
Oh, je crois que... La première, vous savez que des réseaux ont été démantelés, vous savez que avant même le 11 septembre, nous avions détecté des menaces, des risques. La France a été très durement frappée pendant très longtemps par le terrorisme. Donc elle est aujourd'hui, je dirais, elle n'a pas été frappée. Et dire qu'elle est à l'abri, personne ne peut le dire. Et d'ailleurs, il y a toute une série de déclarations
qui vont dans le
très
sens
préoccupantes qui vont dans le sens inverse. Donc non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. La seule chose, c'est que d'une certaine manière, hélas, les expériences des vagues terroristes successives que nous avons connues à la fin des années 80 et dans les années 90 nous avaient amené à adopter des mesures de vigilance, de précaution, de renseignement qui ont montré qu'elles étaient aujourd'hui ou qu'elles avaient été utiles.
Dernière question d'André Brigaud. André Brigaud, Justice et Paix, une question sur le nucléaire et sur la prolifération.
Oui, il y a évidemment cette question qui tourne autour de l'Iran et on l'évoquait à propos de l'Europe. Est-ce qu'on peut avoir une position un petit peu spécifique en Europe vis-à-vis de l'Iran ? Est-ce que cette idée qu'on pourrait admettre que l'Iran reste un pays du seuil, c'est-à-dire n'aille pas jusqu'à la possession d'armes nucléaires, est-ce que dans ce domaine, il y a en matière de prolifération une nécessité d'aller très loin ou des possibilités peut-être de considérer que ces technologies ont aussi une signification régionale importante. Et puis peut-être un dernier point, peut-on faire des économies ou peut-être redistribuer un certain nombre de ressources, en particulier vers des technologies qui ont peu été développées, je pense à l'espace en particulier.
Alors, première question d'abord, Louis Gauthier, donc délégué national aux questions stratégiques au PS, sur cette question du nucléaire, et puis une question connexe, est-ce que on peut décemment interdire à un pays comme l'Iran d'avoir la bombe quand nous-mêmes nous possédons l'arme nucléaire ?
Ça ne se pose pas en ces termes. Les Iraniens ont signé un traité de non-prolifération, comme toute une série de pays, dont nous-mêmes d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs catégories, les pays qui sont historiquement dotés et puis les autres. Et vous ne pouvez pas penser comme historiquement on a pensé le désarmement dans le domaine nucléaire, c'est-à-dire comme un désarmement qui à terme devait être général et complet, en ayant de tels retours de l'histoire. C'est déjà assez difficile, je dirais, de gérer cet instrument pour que, vous le savez bien, admettre une sortie du TNP et une indiscipline de l'Iran, s'est entraînée toute une série d'effets en cascade, notamment de concurrence régionale dans ce domaine.
Or, le risque est réel aujourd'hui d'une nucléarisation ?
Bien sûr, il suffit de voir l'ensemble des programmes, par exemple, dont on a eu connaissance d'un certain nombre de pays.
Excusez-moi Louis Gauthier, mais cette indiscipline,
Jean-François Colosimo.
Cette indiscipline, elle est déjà à l'ordre du jour, partout dans la région, Pakistan, Inde,
Israël,
enfin, qui sont des puissances non déclarées, mais dont on est à peu près assuré qu'elles ont la bombe.
La différence, vous le savez, c'est que ces pays n'avaient pas signé le TNP. Alors je sais bien qu'on oppose...
Traité de non-prolifération.
Traité de non-prolifération, d'opposer des barrières de papier ou des textes. Mais malheureusement, ou heureusement, je dirais d'une certaine manière... Le droit progresse comme ça, il progresse par saut, il progresse par élimination. Je crois qu'il faut avoir avec l'Iran le dialogue de la fermeté. Ce dialogue de la fermeté dans une négociation qui est aujourd'hui ouverte et qui donc doit rechercher d'abord les solutions politiques de cette négociation.
On ne va pas vers une intervention.
Mais je crois que si on ne part pas dans cette négociation avec la ferme conviction que la généralisation de la prolifération nucléaire, notamment dans la région, serait un risque majeur, risque intentionnel, c'est évident, mais aussi risque accidentel, eh bien, je pense qu'on fait une erreur d'appréciation. Et que la bonne logique, elle est quand même de se situer dans une position ou dans une attitude du désarmement. Ce qui signifie aussi que les grandes puissances ne se mettent pas à l'abri de ce mouvement de désarmement. On a connu une période relativement vertueuse jusqu'en 1998, c'est-à-dire les essais indiens et pakistanais que vous évoquez, où les grandes puissances ont, de manière unilatérale ou multilatérale, largement désarmé. Regardez en France, il y avait 3 composantes, il n'y en a plus qu'une. On a supprimé toutes les composantes pré-stratégiques, arrêté les essais, après les aléas qu'on a connus, démantelé les usines de fabrication de matières fissiles nucléaires. Donc c'est ce mouvement-là qui aujourd'hui est cassé. Et c'est ce mouvement de désarmement qu'il faut retrouver.
Jean-François, Frédéric Cazatsu, pardon.
Oui, comment articulez-vous l'évolution de ce qu'on appelait jadis l'équilibre de la terreur ? Jadis, on considérait
ça n'existe. Enfin, j'allais dire, ça n'existe plus, parce que, ou plutôt, l'équilibre de la terreur a existé et a été un des éléments de la définition d'un équilibre international, qu'on ramenait d'ailleurs à l'équilibre nucléaire entre les deux blocs.
Mais oui.
Aujourd'hui, vous seriez bien en peine de dire ce qu'est l'équilibre international. Il n'est pas la résultante d'un équilibre nucléaire qui permet de décrire de manière un peu artificielle l'équilibre international. Il est plutôt le résultat de toute une série d'équilibres ou de déséquilibres internationaux, dont certains sont... pas surimpliqués, mais déterminés par l'existence ou non de pays nucléaires, et d'autres, non. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'il y a un équilibre nucléaire global, et que cet équilibre nucléaire global, plus polynucléaire, puisqu'il y a plusieurs centres, définirait l'équilibre international.
Dernier mot avant la pause, Louis Gauthier, le monde est devenu plus dangereux du fait de cette question, notamment ?
Je pense que si la communauté internationale ne parvient pas à discipliner les problèmes de prolifération nucléaire et balistique, oui, le monde devient plus dangereux.
On se retrouve dans un instant. Je rappelle donc que vous êtes conseiller aux questions stratégiques au Parti Socialiste et je remercie André Brigaud, membre de Justice EP, d'avoir bien voulu être avec nous par téléphone. A tout de suite.
Radio Notre-Dame.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Louis Armstrong, What a Wonderful World. Oui, effectivement, on est en train d'en discuter ici au cours de cette émission, élection présidentielle consacrée à la place de la France dans le monde, avec Louis Gauthier, délégué national aux questions stratégiques au PS, avec toujours Jean-François Colosimo et Frédéric Cassatsu pour l'hebdomadaire Réforme, et pour Jean-François Colosimo pour orthodoxie.com, le site. Alors, première question de cette troisième partie, Jean-François Colosimo.
Là encore, une question très directe. On sait que dans le cadre de la mondialisation, les identités sont multiples, et si il n'y a pas de multiples allégeances, il y a des liens en tout cas très profonds. Alors cette France qui compte en Europe la principale communauté juive et la principale communauté musulmane d'Europe, elle ne peut pas vivre le conflit israélo-arabe d'une manière indifférente, n'est-ce pas ? Même si effectivement, les citoyens français sont des citoyens français, tous, et à égalité. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut attendre de Ségolène Royal, présidente ? Est-ce qu'il y aura une inflexion de la politique de la France ? Où va-t-on ?
Je crois qu'à Villepinte, elle a été très claire. Les deux communautés palestiniennes et israéliennes ont chacune besoin d'or et assurance sur l'existence de leur État, sur les conditions de leur sécurité et aussi pour les Palestiniens sur la condition de leur développement. Et je crois qu'il y a une responsabilité des Européens, je dirais plus facile sans doute s'il y a un passage de relais dans l'administration américaine, pour évidemment faire repartir une dynamique de la paix au Proche-Orient.
Mais Louis Gauthier, justement, sur cette question du Proche-Orient, est-ce que ce n'est pas l'exemple le plus frappant du fait que l'Europe et la France aient en quelque sorte, peut-être c'est schématique, choisi de sortir de l'histoire et finalement de ne plus peser sur le cours des négociations internationales? On voit bien sur cette question d'Israël et des Palestiniens que...
On ne peut pas dire ça. La France a été régulièrement associée, je dirais, pratiquement à toutes les phases du processus. Mais il y a eu des phases de processus où, je dirais, l'une ou l'autre partie a exclu quelquefois les arbitres ou les médiateurs. Rappelez-vous
la France
le
encore
rôle de Sant'Egidio, par exemple, combien à certains moments il a été difficile pour les États d'essayer de faire reparaître un terrain de la discussion. Non, je crois que la France, elle, il y a des évolutions, il y a des aléas de sa position, mais elle est constante et je pense qu'elle doit encourager la reprise d'initiatives. La reprise sur une feuille de route certainement modifiée des positions internationales du quartet et la reprise de discussions entre les deux parties.
Frédéric, là-dessus.
Vous avez parlé des épées tout à l'heure, des armes, mais est-ce qu'on pourrait dire un mot du bouclier ? On a le sentiment que face à l'avalanche potentielle des missiles intercontinentaux, même les États-Unis ne pourraient pas faire face. Qu'en est-il de la France ? Et comment nous protéger ? Construire une vaste tranchée en béton à l'est du pays ?
Non, mais pas du tout. Je crois que d'ailleurs toute la tonalité de ce que j'ai dit avant, c'est sont plus confiantes dans ce que l'homme et la communauté est capable de faire, à condition d'abord de déverrouiller les peurs, de ne pas attiser les paranoïas sécuritaires de part et d'autre, de retrouver de l'échange, du lien. On en parlait comme une nécessité absolue pour s'asseoir à la table de négociation. Il faut commencer par reconnaître l'autre, les uns et les autres, sa légitimité. Donc je pense que le premier rôle de la France, il est celui-là. Il est dans sa tradition d'ailleurs internationaliste.
Mais donc pas d'espérance profonde de pouvoir empêcher une agression nucléaire.
Attendez,
réellement.
Je pense ça mérite d'être dit. Vous voulez parler du bouclier antimissile.
Oui, bien sûr.
Bien sûr qu'il y aura il y a des développements de ce type de technologie. Il y a aussi le risque de ces développements, parce que vous voyez que, évidemment, par exemple, le bouclier antimissile américain, vous l'avez vu dans l'essai notamment chinois, fait que des contre-mesures vont aussi se développer ailleurs. C'est ce fameux cycle terrible qui pèse sur l'humanité, des progrès de l'épée et des progrès de la cuirasse qui s'opposent en permanence. La grande crainte, c'était d'ailleurs une question d'André Brigot. Lui, il évoquait la dimension spatiale, j'imagine, parce que quand de l'espace, on peut mieux surveiller le monde. Et quelquefois, on peut mieux prévenir certaines troubles, certaines colères. On voit mieux se constituer les risques et notamment l'accumulation d'armements. Mais d'un autre côté, la militarisation de l'espace serait une chose terrible. Donc là encore, relance du désarmement dans ce domaine.
Jean-François Colosimo.
Pour ce qui est de la réelle politique à l'Est, par exemple, la Russie, est-ce que la France de Ségolène Royal contracte une forme de pacte avec la Russie, ou est-ce que, par exemple, l'affaire Tchétchène empêche, au nom de la morale, un tel rapprochement ?
Elle a dit des choses très claires, là encore, à vile peinte, sur la violation des droits de l'homme par la Russie, notamment dans les guerres dans lesquelles elle est engagée en Tchétchénie. Combien cette société violente aujourd'hui peut être inquiétante, mais en même temps, là encore, le grand message, il est quand même un message de coopération entre les peuples. On veut unifier l'ensemble du continent sur les bases de positions pacifiques. C'est pour ça que tout ce qui tend les relations, on peut penser par exemple à certains dossiers polonais ou tchèques aujourd'hui, tout ce qui tend les relations sur ce continent nous donne curieusement et terriblement l'impression de revenir à des éléments de tension qu'il faut à tout prix éviter. Alors d'un côté, il y a un risque de renaissance ou de posture nationaliste russe. De l'autre, il y a des risques de clivage autour de l'intégration d'un certain nombre de pays dans l'OTAN. Je crois que la vraie raison, elle est là encore au dialogue, et de ne rien faire qui puisse justement ébranler cet édifice de paix européen. Par ailleurs, nous avons avec les Russes toute une série d'enjeux, d'intérêts communs. Donc je ne veux pas rentrer dans cette logique. Je veux rentrer dans une logique qui est nécessairement partenariale avec la Russie. Mais quand on rentre dans une logique partenariale avec quelqu'un, on peut quand même lui dire ce avec quoi on n'est pas d'accord.
Alors Louis Gauthier, il est d'usage dans cette émission que l'invité choisisse un passage de la Bible ou de l'Évangile et qu'il le commente pour nous donc et pour nos auditeurs. Pour ce qui vous concerne, eh bien vous avez choisi un passage de l'Évangile de Matthieu. C'est Matthieu 26-51, passage au cours duquel Jésus se fait arrêter et Saint-Pierre sort son épée. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce passage ? On peut peut-être juste en citer un extrait, un de ceux qui étaient avec Jésus, alors on suppose que c'est Saint-Pierre, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée ». Vous êtes plutôt considéré comme un réaliste. En quoi vous vous retrouvez dans ce passage ?
Je me retrouve pas nécessairement dans ce passage, mais je pense que ce passage est très fondateur de la manière dont on peut poser les questions de la paix, de la guerre, de la violence en Occident. Souvenez-vous d'ailleurs, et malheureusement cette promesse n'a peut-être pas été portée, mais de la phrase de Tertullien qui disait « En désarmant Pierre, le Christ a désarmé la chrétienté ». Et on sait bien que, notamment au travers des discussions de saint Augustin ou de saint Thomas, on a finalement opposé la violence intérieure, la violence personnelle, l'inimicus à la notion de la défense de sa communauté, la justification de la défense de sa communauté, l'hostis, l'adversaire qu'on peut combattre, et comment à partir de là, c'est progressivement construit avec une bifurcation au moment où les questions sont rentrées à l'intérieur du monde, sont devenues mondaines, se sont sécularisées, la notion de ce que devait être une guerre juste, la juste cause, des finalités justes, des principes justes, et puis ensuite, quand on est passé à une culture davantage dominée par le droit, comment justement essayer de régler la guerre et essayer d'avoir une approche qui à la fois n'ignore pas les réalités de la violence, mais opère par distinction, par catégorie. Alors moi, je suis un laïc, et aujourd'hui ces catégories sont davantage portées par le droit que par la religion. Mais je crois que, y compris d'ailleurs, les chrétiens se reconnaissent dans une construction qui soumet au droit davantage l'organisation entre des communautés humaines qui ne se reconnaissent pas forcément les mêmes dieux. Et donc, je suis de ceux qui pensent que la démarche politique doit être appuyée aussi sur une démarche de construction juridique, notamment au plan international, même si aussi on en connaît les limites. Je pense que partout le droit progresse. Même si en progressant il entre en contradiction, on fait davantage avancer les chances de la paix. C'était d'ailleurs mon raisonnement sur la problématique du désarmement et de l'Iran. Et puis enfin, je voudrais vous citer un texte, alors qui n'est pas d'un évangéliste, qui est d'Étienne Tassin, mais que je cite souvent, qui est dans un de ses ouvrages qui s'appelle « Un monde commun », dans lequel il dit « C'est toujours au nom des valeurs, des convictions qu'on fait la guerre, alors que c'est toujours au nom des principes, des conventions qu'on fait la paix, c'est-à-dire au nom des hommes. » Et je crois que dans toute cette affaire, pour moi...
Vous opposez les principes aux valeurs.
Oui, j'oppose les hommes, quelquefois, aux valeurs... aux convictions, aux croyances, aux intégrismes. Je pense que l'organisation du monde implique effectivement, pour s'entendre, de trouver des terrains communs qui impliquent de neutraliser certaines formes de passion.
Merci beaucoup Louis Gauthier d'avoir été avec nous. Donc je renvoie à votre livre « Face à la guerre », c'était aux éditions de la Table Ronde. Vous êtes délégué national aux questions stratégiques du Parti Socialiste. La semaine prochaine, nous reviendrons sur des questions plus franco-françaises, la question de la laïcité notamment et de l'intégration. Merci à tous de votre attention. Vous pouvez nous retrouver sur les sites internet des différents médias. Très bonne soirée à tous.